auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans En Spectateur pour un numéro spécial Journée de la radio en direct du Théâtre Cantor de l'ENS de Lyon. Dans cette émission, je vous invite, une fois relevés de nos strapontins adorés, à nous infiltrer dans les failles du quatrième mur, à faire retour sur ces expériences déplaçantes, inspirantes, qui ne cessent de questionner la place qui est la nôtre lorsque nous vivons en spectateur. Aujourd'hui, le coup de projecteur se dirige vers une création de théâtre musical qui questionne notre rapport aux fantômes et à la spiritualité. Cette création, c'est l'énigme Rosemary Brown. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Maya Boquet et Olivier Normand. Maya Boquet, vous êtes metteuse en scène, dramaturge et réalisatrice sonore. Entre radio, théâtre et écriture, vous explorez le continuum entre fiction et documentaire. Vous avez écrit et réalisé des fictions radiophoniques, Radio France, et cofondé Radio Femme Fatale, mêlant théâtre et création radiophonique. Vous êtes actuellement en résidence artistique au SUBS, où vous mettez en scène l'énigme Rosemary Brown. Olivier Normand, bonjour. Vous êtes comédien, danseur et metteur en scène. Après des études de lettres modernes ici même à l'ENS de Lyon, vous avez rejoint le Centre chorégraphique national de Montpellier où vous vous êtes formé à la danse contemporaine, puis au jeu théâtral et au chant lyrique. En parallèle du travail de recherche que vous menez sur l'interprète, vous jouez dans l'énigme Rosemary Brown au SUBS qui se jouera du 26 au 28 avril prochain. Maya Boquet et Olivier Normand, tout d'abord merci d'avoir accepté de venir participer à la journée de la radio. Je vous ai présenté donc, mais s'il y a bien une personne que j'ai oublié de présenter et qui est plus que centrale dans ce spectacle, c'est Rosemary Brown. Rosemary Brown, mais qui est-elle ?
Rosemary Brown est une médium qui a vécu au XXe siècle. Elle est née en 1916 et elle est décédée en 2001. Et à partir de 1964, Liszt est venu la visiter. Donc elle était anglaise, je l'ai déjà dit. Et Liszt a ramené beaucoup d'autres compositeurs. Beethoven, Chopin, Rachmaninov, Debussy, Schumann, etc. Et donc à partir de là, alors qu'elle ne savait pas jouer de musique, elle s'est appliquée à retranscrire des partitions que ces compositeurs de l'au-delà venaient lui transmettre et lui dicter pendant 30 ans. Elle a retranscrit 1200 partitions qui sont toutes archivées à la British Library de Londres, qui fonctionnent comme des preuves de ce phénomène, de cette expérience qu'elle a vécue et sur lesquelles nous, on s'appuie pour travailler.
À quel temps, ou plutôt sur quel mode, voulez-vous qu'on parle de l'énigme Rosemary Brown ? Doit-on en parler sur le ton de l'affirmation, donc supposer que cette histoire est vraie, lui accorder du crédit ? Ou bien doit-on utiliser le conditionnel et être sceptique, ou du moins émettre une réserve quant à cette histoire ? Comment en parlez-vous dans le spectacle et comment voulez-vous qu'on en parle dans cette interview ?
Alors moi j'ai un trouble initial et je m'en suis rendu compte au moment d'imaginer comment répondre à votre question, c'est que ça m'est devenu assez difficile de parler de Rosemary Brown à la troisième personne. Puisque dans la pièce, c'est moi qui la joue, qui l'incarne, ou c'est moi qui en suis le médium physique sur scène. Et donc j'ai pris l'habitude de parler de la vie de Rosemary Brown à la première personne, en disant « la première fois que Liszt est apparue, j'avais 7 ans. J'avais 7 ans, je ne le connaissais pas. Et il m'a dit « quand tu seras grande, je te dicterai de la musique et tu deviendras célèbre ». Et donc là, je suis à la fin dans le trouble de la véracité possible de son récit et de l'énonciation pour moi. Est-ce que je parle à la première personne en Rosemary Brown ou de Rosemary Brown ?
Effectivement, on a convoqué Rosemary Brown à travers Olivier, qui en est le médium. Et dans tout le travail d'écriture, et donc d'écriture textuelle, mais aussi d'écriture plateau, on appelle Rosemary Brown. Donc on peut en parler effectivement au passé, puisque c'est une figure qui appartient au siècle dernier et qui n'existe plus, mais en la convoquant, on ne peut que la convoquer dans un présent. Et le théâtre, le plateau, ne cesse de convoquer le présent, même s'il charrie lui-même toutes sortes de fantômes. Donc c'est un va-et-vient permanent entre ce présent, ce passé. Quant au conditionnel,
Tu parlais de preuves tout à l'heure. Je me dis, les preuves qu'on convoque au plateau sont toujours aussi sujettes à caution, puisque c'est des preuves théâtrales qui sont sur un plateau de théâtre et qui donc sont placées d'une manière ou d'une autre sous le signe de l'illusion, si on veut, ou en tout cas d'un endroit de représentation dont on ne sait pas tout à fait à quel point il peut être chevillé ou pas à la question de la véracité ou de la... ou du...
On formule des hypothèses. Toujours est-il qu'effectivement, à la fois, on a travaillé à partir de documents, d'interviews, qu'elles soient radiophoniques ou télévisuelles, du livre que Rosemary a écrit, qui s'appelle, du livre traduit en français en tous les cas, qui s'appelle En communication avec l'au-delà.
Unfinished Symphony en anglais, donc la traduction est un peu hasardeuse.
Mais je crois qu'elle en a écrit 3 et qu'il y en a seulement un qui a été traduit en français. Qui fonctionne un peu comme une grande confession. Elle se justifie aussi parce qu'elle a été sujette à beaucoup d'attaques face à des sceptiques, ce qu'on peut comprendre. Et une fois ces documents collectés... Alors, si on retrace, que ce soit chronologiquement ou par un autre prisme, mais toujours à travers ces documents, on ne peut pas dessiner une histoire linéaire. On ne peut pas raconter quelque chose autrement que par le fragment. Mais notre conditionnel et nos hypothèses viennent s'immiscer dans les trous, justement, de cette histoire, dans les plis, là où les fragments nous laissent de la place. Et l'interprétation... qu'elle soit prise en charge par l'auteur Alban Lefranc, qu'elle soit prise en charge par Elsa Biston qui fait la composition, Andrea Baglione qui a signé la scénographie et la création lumière, et Olivier Normand dans toute sa partition scénique. Le jeu, la fiction, les hypothèses, et donc, pour répondre à votre question, le conditionnel se loge dans les plis.
Le spectacle, la création, s'intitule L'énigme Rosemary Brown. Alors, sous quelle forme se présente ce spectacle? Est-ce une enquête, une reconstitution de la vie de Rosemary Brown, de son contact avec les compositeurs depuis l'au-delà?
C'est tout ça. Et ça n'est plus ça. Comment dire? Oui, c'est une enquête de fait, parce que comme... je viens de le dire, à collecter des documents, on reconstitue, on cherche une cohérence, il y a un travail d'écriture qui en passe par le montage. Le montage, le démontage, le remontage, l'agencement en fait de ces fragments.
Donc l'enquête et la reconstitution s'entremêlent, mais c'est... un tout, en fait. C'est tout à fait indissociable de ces deux éléments, enquête et reconstitution dans le film Rosemary Brown.
C'est indissociable et je crois aussi qu'on n'a pas essayé de résorber ou de résoudre les ambiguïtés de Rosemary Brown. Donc d'une certaine manière aussi cette esthétique du fragment, ce dont tu parlais, Maya, fait sonner comme ça, dispose d'un certain nombre d'éléments qui sont des documents d'archives qu'on entend, des archives radiophoniques ou télévisuelles qu'on a extraites, mais en faisant se rencontrer des fragments de nature assez diverses et dont le statut est aussi un peu ambigu, c'est-à-dire qu'il va y avoir à la fois des choses qui ont été écrites ou réécrites ou reformulées par Maya et Alban, des extraits de ses livres, des archives radiophoniques, des morceaux de choses que j'ai improvisées, moi, dans le jeu. Donc, l'enquête, elle avance sur des terrains qui sont mouvants, qui sont instables.
Sur scène, c'est pas la restitution d'une enquête qu'on voit. C'est pas la pensée de quelqu'un qui chercherait à ordonner, effectivement, des documents et des fragments. Il n'y a pas cet aspect performatif d'une forme de conférence ou de pensée qui se transpose sur le plateau. On n'est pas du tout à cet endroit-là. On a cherché à travers, effectivement, nos outils qui sont aussi la fiction, l'entrée dans le jeu, dans l'incarnation, le glissement dans l'incarnation, effectivement, dans l'appel de Rosemary Brown à rendre compte de notre processus qui, oui, lui, est une enquête. Mais c'est le process qui est une enquête, c'est pas le résultat sur le plateau. Sur le plateau, c'est autre chose qu'on voit, qui peut s'apparenter à une forme d'enquête, puisque ça commence avec un intervieweur qui pose des questions à Rosemary. Donc oui, il y a, l'enquête pose en permanence des questions. Donc après, elle peut prendre plusieurs formes de restitution différentes. Et voilà, on n'est pas dans une littéralité de la pensée qui enquête. On a cherché à transformer, à twister cette chose-là directement pour créer du jeu.
Qu'y a-t-il de plus énigmatique dans l'histoire de Rosemary Brown, selon vous ?
Bah, ce que je trouve d'assez fascinant dans Rosemary Brown, dans sa manière de pratiquer la communication avec les esprits, on va dire, et dans un peu tout le paysage des spirites, c'est la manière très domestique qu'elle a de se présenter, et la manière très matter of fact, quoi, enfin très où elle rencontre List, et List est avec elle, et List vient avec elle quand elle va faire ses courses. Il y a une chose comme ça très
et les conseils qu'elle fruit voilà, qui est au marché.
Exactement. Il y a une chose assez banalisée, même dans les moments où elle est en communication et où les compositeurs lui dictent leur partition. Il n'y a pas du tout de trans spirit extrêmement spectaculaire. C'est tout à fait banal, et puis List est là. Et puis c'est vrai que List aime bien être avec moi quand je vais faire les courses, quand je fais les ménages, quand je lave les carreaux, quand je fais la vaisselle. L'autre jour, j'étais au supermarché, j'achetais des bananes, j'adore les bananes. Quand tout à coup, List était avec moi, List me dit « Rosemary, regardez, il y a un autre lot moins cher là-bas, je vais voir effectivement, il était moins cher. » Voilà, elle a une manière comme ça très... très désarmante et très charmante de dissoudre ce qui pourrait être énigmatique finalement dans le rapport à la, enfin de dédramatiser ou de démystifier le rapport spirit, enfin le rapport de la communication.
Oui, et alors ça va plus concerner l'histoire presque du spiritisme, c'est-à-dire que pendant longtemps, il s'agissait dans le passé d'établir la communication à travers un médium, mais la plupart du temps un objet, quelque chose qui se matérialise et qui vient donc matérialiser le fantôme. Et Rosemary est presque, pas révolutionnaire, mais en tout cas très avant-gardiste dans le champ du spiritisme à l'époque, c'est qu'elle n'en... Elle n'en passe plus par aucun type de médium autre que ses doigts, qui effectivement pianotent. Alors peut-être que le médium est le piano, peut-être que le médium sont les touches du piano, mais voilà, elle est un canal direct pour retranscrire ses partitions. Et ça, c'est assez énigmatique en fait dans le champ du spiritisme. Où malgré tout, je l'ai dit, des objets prenaient cette fonction d'intercesseur, on va dire, alors que là, il y a une communication directe.
Elle a d'ailleurs une assez belle formule, elle dit, par exemple, « List prend possession de mes mains comme si c'était des gants ». Il y a une chose comme ça, effectivement, qui est immédiate. D'une certaine manière.
Bien, je me permets de réagir à cette dernière citation, puisque nous allons écouter tout de suite Swan at Twilight, une partition inspirée à Rosemary Brown par List.
Thank you.
vient d'entendre cette partition inspirée à Rosemary Brown par Liszt. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment Rosemary Brown savait-elle qui était le compositeur qui cherchait à rentrer en communication avec elle et à lui inspirer ses partitions ?
Eh bien, ils me le disent. Ils me le disent. Je les reconnais. Ils apparaissent.
Et comment savez-vous qu'ils sont morts ?
Ils me le disent. En réalité, je n'ai même pas besoin de piano. J'ai juste besoin de papier, d'un crayon. Ils ont chacun un peu des méthodes différentes. Mais Liszt est celui qui m'en a donné le plus. Chopin aussi. Chopin en deuxième position. Une quantité phénoménale de morceaux. Beethoven, non. Il ne m'a pas donné grand-chose. Mais ce sont toujours des pièces plus longues, très travaillées, très, très exigeantes.
Il y a Bocquet, quelle est la place de la musique de Rosemary Brown dans votre spectacle ? Est-ce que vous diffusez des musiques ? Est-ce que vous les interprétez ?
Alors j'ai invité Elsa Biston à venir s'emparer de la figure de Rosemary Brown avec nous et à travers effectivement son outil et son médium qui est la musique. Elsa est une compositrice qui met en place des installations sonores avec des objets qu'elle fait vibrer et donc compose en fait une sorte d'orchestre avec des objets plus ou moins du quotidien, mais qui ont donc un aspect un peu étrange et étonnant, puisqu'on voit une boîte de gâteaux, par exemple, vibrer et créer de la musique, on voit des feuilles bouger, etc. Donc, Elsa, quand j'ai découvert son travail, j'ai vu une sorte d'évidence à ce qu'elle vienne rejoindre le projet. Donc, il y a effectivement, on entend des morceaux de Rosemary Brown, mais Elsa a beaucoup plus travaillé sur la fabrication des morceaux, le labeur d'une certaine manière, l'erreur, la correction, le retour, le tâtonnement, donc les notes qui se cherchent, les notes qui surgissent. Et il y a une approche assez bruitiste, assez cagienne dans sa manière de procéder qui, effectivement, déconstruit pour reconstruire et qui va avec une ligne directrice que j'ai donnée à chaque artiste dont je me suis entourée, qui est effectivement travailler sur cette esthétique du fragment, mais aussi chercher l'invisible dans les silences et dans les plis du silence. Voilà, très exactement ce que je leur ai proposé. Et donc Elsa s'est emparée de cette question-là et a cherché Rosemary Brown dans les plis du silence.
Et c'est vrai que dans sa partition, il y a toute une nature de son de l'ordre du subliminal, enfin vraiment aux lisières du silence, justement, où on se demande si c'est des vibrations, si c'est juste, je ne sais pas, un grésillement de projecteur, si c'est le son d'une voiture un peu lointaine qui nous parviendrait filtrée par les murs du théâtre, ou est-ce que c'est les sons qui sortent de ces objets, est-ce que c'est juste un genre d'acouphène que notre corps produirait lui-même. Enfin, il y a une ambiguïté, en tout cas, sur toute une partie de la pièce, sur quelle est la nature de ces sons et quelle est leur intentionnalité, d'une certaine manière.
Avec l'énigme Rosemary Brown, à qui vous adressez-vous ? Est-ce que vous adressez à des spectateuristes qui croient à la porosité entre notre monde et le monde de l'au-delà, ou bien est-ce que vous adressez aussi à celles et ceux qui sont sceptiques, voire franchement pas tentés de croire à cette communication avec le monde de l'au-delà ?
Ah, on ne s'adresse à personne, on appelle Rosemary Brown.
La réponse est claire. L'histoire de Rosemary Brown, donc j'allais vous demander si vous y croyez. Est-ce que vous faites le choix d'y croire ou de ne pas y croire ? Je crois que la réponse est assez claire dans ce que vous venez de dire. Vous y croyez, vous allez croire tout de suite ?
Je crois qu'il y a cette idée-là de la suspension momentanée de l'incrédulité, qui est aussi une question théâtrale, évidemment. Enfin, je sais pas vraiment si là on y croit comme on y joue, on joue à y croire, enfin je parle à la première personne. Moi, je joue à être Rosemary Brown, je joue à y croire, je joue à...
Alors, ce qui est intéressant dans le fait de travailler avec Rosemary Brown, personnellement, moi, je suis plutôt matérialiste, je peux être assez sceptique face à ce type de phénomène. Et elle nous invite à, en tout cas moi, elle m'a invité à me déplacer, à glisser, à appréhender la création autrement. Et ça, c'est un point fondamental, en fait, qui est une forme de mise en abîme de ce qui lui est arrivé, son expérience, et nous, tout le process par lequel on en passe. Qui crée ? Qui signe ? D'où vient l'inspiration ? Peut-on la nommer aussi facilement qu'on arriverait à définir un concept ? Peut-on être certain qu'on est seul à avoir cette idée ? Et Rosemary vient nous poser toutes ces questions-là, et régulièrement, on a l'impression qu'elle vient... Nous visiter, nous apporter des petits signes, mais on voit des signes là où on veut les voir, bien évidemment. Elle nous permet d'aborder cette création en laissant surgir le rien, le vide, pour que quelque chose apparaisse, peut-être de fantomatique au départ, et qui, subrepticement, va devenir de plus en plus concret, mais fugacement repartira.
Est-ce qu'elle dit quelque chose de l'inspiration, cette énigme Rosemary Brown ? Quand on est artiste, est-ce qu'on se sent parfois visité par des grandes figures qui nous inspirent ? Pas forcément des figures de l'au-delà, mais aussi des sortes de mentors qui viennent comme ça nous inspirer, nous transmettre leur énergie, leur élan, leur impulsion. Est-ce que c'est quelque chose qu'en tant qu'artiste, vous avez ressenti dans votre parcours ?
Oui, je crois que c'est ça. C'est effectivement une des questions. Comment on nomme l'inspiration ? Alors, est-ce que c'est la muse ? Voilà. Est-ce que c'est Liszt ? Est-ce que c'est... Ce sont des manières de nommer les franges ambiguës des idées qui sont les nôtres et pas tout à fait les nôtres. Et c'est le fait qu'elles soient pas tout à fait les nôtres qui permet que la création advienne. Enfin, ça veut dire qu'il y a une chose imprévue qui arrive, évidemment.
Ça me fait penser au livre des tables de Victor Hugo, qui fait des séances de spiritisme à Jersey, d'abord pour essayer d'entrer en communication avec sa fille qui vient de décéder, et puis très rapidement, il y a des figures qui arrivent, des grandes figures de la littérature ou de l'art, parce que aussi de la peinture, etc. Et puis, dans un deuxième temps, ce sont des concepts, des allégories qui sont invitées autour de ce guéridon. Et donc, il y a l'amour, il y a la comédie, la tragédie, la mort qui viennent lui parler, leur parler, parce qu'ils sont plusieurs. Et effectivement, réalimenter et reconvoquer l'inspiration. Alors, on peut croire en ces phénomènes, ou on peut vouloir de manière ludique ou sérieuse mettre en place des séances de spiritisme. Mais on a plein d'autres procédés. Il y a les cartes de Brian Eno, par exemple, qui s'appellent...
Oblique Strategies,
qui, du coup, en les tirant, viennent aussi réalimenter notre imaginaire, par exemple. Mais je pourrais très bien, dans ma bibliothèque, aller piocher tel livre, lire telle phrase. On recycle en permanence. On est entouré d'idées, de concepts, d'œuvres qui se sont déjà déposées. À mon sens, on ne fait que de les remâcher, les recracher, les redigérer pour, oui, les transformer, bien évidemment. Mais il y a une forme d'analogie avec l'organique là-dessus, je crois, et que les idées et que la création, ne peut pas se départir de cette forme de processus, quoi.
Vous parlez de ce processus, donc elle dit quelque chose de l'inspiration artistique, Rosemary Brown, mais Elle ne dit rien du travail, de la sueur, des tourments de l'artiste, de la technique, puisque est-ce que vous me confirmez que Rosemary Brown n'a jamais reçu de leçons de solfège avant d'être visitée par ses compositeurs ?
Très peu. Quelques leçons de piano quand elle était petite. Je suis perdu dans l'énonciation. Non, très peu. Ce qui d'ailleurs est bien souvent dans les procès faits au spirit, la nullité de la personne est le gage de la qualité du médium. C'est-à-dire que souvent les gens disent elle était trop bête cette Rosemary Brown, elle a pas pu, parce qu'elle était précisément très nulle et très inculte en musique. Ça atteste de la véracité de son don d'une certaine manière. Il y a une chose comme ça proportionnelle. Après, elle insiste assez fortement sur le fait que c'est beaucoup de travail, que précisément parce qu'elle n'a pas de formation musicale, c'est d'autant plus de labeur parce qu'elle ne connaît pas, par exemple, les noms techniques des accords et que donc elle se trompe souvent. En plus, les compositeurs se fâchent parce que Liszt s'impatiente et que donc elle est obligée comme ça de recopier les accords note à note parce que fa mineur, elle ne sait pas ce que ça veut dire. Et donc il y a une chose très, au contraire, de labeur extrêmement sur lequel elle insiste beaucoup. Il y a une chose comme ça un peu working class même.
Artisanale,
oui. Mmh. Ouais.
C'est-à-dire on y revient. On façonne l'ouvrage, on travaille le détail, et oui, on y retourne jusqu'à une idée de perfection.
Et qui déplace un petit peu la question de est-ce qu'elle ment, est-ce qu'elle dit vrai, est-ce que c'est faux ? C'est-à-dire qu'on y croit ou non, que ce soit vrai ou que ce soit faux, le travail est là. Enfin, il y a 1200 partitions, il y a une masse de travail qui est indéniable et qui est colossal.
Est-ce que vous donnez à la médium britannique, à Rosemary Brown, l'occasion de vous visiter ? Comment réagirez-vous sur scène si Rosemary Brown venait vous rendre visite et vous a-t-elle déjà envoyé des signes pendant les répétitions ? Parce que vous dites que vous l'incarnez vraiment, on a vraiment ressenti cette idée, mais est-ce qu'elle vous a déjà envoyé des signes pendant les répétitions et est-ce que vous pensez qu'elle vous visitera, pendant les représentations ?
Je le souhaite. C'est un peu tout l'enjeu, avec l'ambiguïté qu'évidemment je l'incarne, mais je l'incarne en acteur, donc je suis aussi dans mon métier, donc dans un rapport technique à ce que je fabrique, pas que technique heureusement, mais aussi technique. Souvent un peu sur le mode de la blague, on l'appelle, on l'invoque, on est en tout cas attentif et attentive aux signes et à se dire c'est Rosemary, donc dès qu'il y a un phénomène un peu étrange ou un peu troublant, on dit c'est Rosemary.
Est-ce que ce spectacle incite les spectateuristes à faire plus attention aux signes que l'on peut recevoir de l'au-delà ?
Pas tant aux signes que à l'écoute, à prendre le temps d'écouter et à prendre le temps de regarder. Je pense que ce spectacle invite à l'attention.
L'énigme Rosemary Brown, c'est une création, une sortie de résidence au Subs. C'est en avril 2023, c'est la semaine prochaine, le mercredi 26 et jeudi 27 avril à 20h au Subs à Lyon. Vous serez également du 12 au 15 mai au Studio Théâtre de Vitry, c'est bien cela. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions et d'avoir participé à cette journée de la radio. Et j'en profite pour annoncer que le nouveau programme des Subs vient de sortir. Bleu, c'est la nouvelle saison des Subs qui se déroulera d'avril à octobre. Donc rendez-vous autour d'une esplanade métamorphosée par l'artiste Alix Boileau, avec des bassins fontaines, des oasis de fraîcheur et jardins suspendus. Les temps forts de la saison, ce sera l'inauguration, le 3 mai, avec des créations de danse, musique et théâtre, mais aussi des soirées musicales et l'événement Bleu Amour, avec au programme des déclarations enflammées, demandes en mariage et autres célébrations du sentiment amoureux sous toutes ses formes. C'est le 3 juin au Subs. Le programme est là, il est en ligne sur le site des Subs. N'hésitez pas à le consulter. Merci encore une fois d'avoir été présent, d'avoir répondu à nos questions. On invite tous les auditeurs et les auditrices